Votre matinale info, Europe Matin Weekend. Pierre de Villeneau.
C'était l'une des hypothèses, elle est maintenant la plus probable. Le no deal se dessine de plus en plus entre l'Europe et le Royaume-Uni. Bonjour Bernard Spitz.
Bonjour.
Vous êtes le président du pôle international et Europe du MEDEF. Vous êtes en charge justement de ce dossier compliqué du Brexit. On l'a vu tout à l'heure dans le journal de 7h avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. On va devoir se plier à de nouvelles règles, de nouvelles habitudes, prendre son passeport même pour un petit week-end à Londres, un visa pour aller bosser, des files d'attente pour les camions à la douane, des produits qui devront être compatibles avec les normes sanitaires et de sécurité. Il y a des conséquences. Est-ce qu'on a quantifier un peu tout ça, Bernard Spitz?
Oui, alors de toute façon, toutes les conséquences que vous venez d'évoquer, elles auront lieu à partir du 1er janvier. Effectivement, c'est bien ce qui va se passer. Qu'il y ait un deal ou pas de deal, de toute façon, tout change. Alors, pour les quantifier, il faut savoir par exemple qu'il y a 120 000 entreprises françaises, oui. Et donc des millions de salariés, qui exportent ou qui importent au Royaume-Uni. Donc, pour toutes ces entreprises, ça change. Et on a fait le calcul que le quart d'entre elles, hein, 25% de ces entreprises, donc 30 000, n'ont jamais fait du commerce hors Union européenne. Donc pour elles, ça va être vraiment un big bang parce qu'il va falloir s'adapter à des règles, à tout ce que vous venez de dire, à des formalités nouvelles, à des déclarations en douane, à toutes sortes de formalités qu'elles n'ont pas l'habitude. Et donc pour elles, c'est vraiment un vrai changement. Donc, et puis évidemment, tous ceux qui sont concernés...
Ça n'est pas que de la paperasserie, c'est aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des droits de douane, ça veut dire qu'elles vont devoir payer.
Oui, à l'import comme à l'export. Alors là, c'est vrai que selon qu'il y a ou pas un deal, ça change des choses. Par exemple, s'il n'y a pas de deal, ça veut dire que c'est les règles de l'OMC qui s'appliquent, oui, sur les échanges de biens. Donc ça veut dire que sur certains produits, il y aura des droits de douane. Et on sait que ça varie selon la nature des produits. Par exemple, sur les produits agricoles, c'est des droits de douane très élevés.
Oui, on dit que sur les produits laitiers, les droits de douane pourraient atteindre 41%, 10% sur le textile, 12% sur le vin, 10% sur l'automobile. C'est totalement considérable.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement grave et que les Européens le savent depuis le début. Le Brexit, c'est un vrai tremblement de terre, en tout cas pour tout ce qui est des relations entre la France et enfin l'Europe en général, et pour nous Français, entre la France et le Royaume-Uni. Il faut savoir que l'Angleterre est notre 6e client et notre 7e fournisseur. On exporte 34 milliards chaque année au Royaume-Uni.
Est-ce que ça veut dire, Bernard Spitz, qu'il y a des entreprises françaises, notamment des PME, qui sont en danger, tout simplement?
Elles sont chacune. Le point, c'est que c'est différent d'une entreprise à l'autre. Tout dépend de la part que représente le Royaume-Uni dans son activité. Et pour beaucoup, elles ont pris des précautions, mais pour certaines qui ont une part essentielle ou qui ont besoin d'avoir des fournitures essentielles, ça peut poser des difficultés. Il y a aussi la nature des produits. Par exemple, vous l'évoquiez avec votre correspondante, le problème du transport. Oui. Les éventuels points de goulot d'étranglement au niveau du tunnel, vous savez que c'est il y a 4500 camions par jour, hein, mm-hmm, qui passent par le tunnel, ça est parfois plus. Donc même si on fait des gros efforts et les administrations, les douanes, tout le monde a fait des plans en la matière, on peut pas imaginer que ça se passe sans chaos, et donc ça pose des problèmes, notamment pour les produits, la chaîne alimentaire, le froid, etc.
Oui, c'est ça, parce qu'on imagine l'embouteillage, mais au-delà de ça, ce sont des retard de livraison et des denrées qui pourraient effectivement être fichues.
C'est vrai, mais c'est aussi vrai du côté anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte pression des milieux économiques en Angleterre pour parvenir à une forme d'accord. C'est aussi la raison pour laquelle les Européens ont proposé, c'est peu connu, mais il y a quelques jours, les Européens ont proposé un plan de contingence, une espèce de transition, si jamais il n'y avait pas de deal, pour conserver au moins la fluidité des transports aériens et des transports routiers pendant quelques mois, et l'accès aux zones de pêche, vous évoquiez, c'est un point particulièrement sensible.
Alors justement, les zones de pêche, on sait que la Royal Navy a déjà prévu de dépêcher des bateaux pour empêcher les pêcheurs français de venir pêcher en eau britannique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, ou quel est le modus vivendi entre les Britanniques et les Européens?
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il est clair que c'est une façon de montrer ses muscles à 24 heures d'une échéance sur un accord. Chacun veut montrer sa détermination. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Jusqu'au dernier moment, un accord est toujours possible et chacun veut montrer qu'il veut faire pression pour que cet accord lui soit le plus favorable. Donc, cette question des eaux britanniques est très importante parce que, bien évidemment, elle concerne les pêcheurs français, mais elle concerne aussi les autres pêcheurs européens. européen et qui, d'une certaine façon, pourrait se rabattre sur les côtes françaises. Donc, pour toute la filière de la pêche, c'est évidemment un sujet majeur. Mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Vous savez, par exemple, au Danemark, c'est un sujet très important. Aux Pays-Bas aussi, et il y a des élections chez eux bientôt. Donc là, il y a à la fois un sujet économique et un sujet très politique.
Ce que vous venez de dire est très intéressant. C'est-à-dire que les autres pêcheurs européens pourraient venir pêcher en eau française. Et donc, d'une certaine manière, il y aurait un manque à gagner pour les pêcheurs français, puisqu'ils ne peuvent plus pêcher en eau britannique. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Ouais. Quand on dit que la facture pourrait s'élever à 3 milliards 600 millions d'euros de pertes d'exportation pour l'Hexagone, c'est Euler Hermès qui a fait le calcul. Ça vous semble cohérent comme chiffre? Et qu'est-ce que ça signifie concrètement?
C'est un chiffre qui représente un petit peu plus de 10%. Je vous disais qu'on exporte 34 milliards au Royaume-Uni, donc
ah oui, c'est ça,
oui. 10%, c'est un chiffre qui paraît crédible. Et après, c'est du statique. Vous savez, les choses se remettent en marche progressivement, et donc on peut penser que on trouvera des nouveaux équilibres. Mais l'important, c'est qu'effectivement, il va y avoir une période de perturbation importante, très à la fois microéconomique, c'est ce qu'on disait à propos des goulots d'étranglement, à propos des formalités, à propos de tous les sujets où on n'en a pas parlé des personnes, mais pour les personnes aussi, c'est très important. Vous avez des accords qui ont été passés pour les gens qui travaillent en Angleterre, mais il y a quand même 4000 filiales d'entreprises françaises qui sont installées au Royaume-Uni. Donc, pour tout ce qui est les camionneurs, c'est-à-dire les gens qui justement franchissent le tunnel tous les jours, les travailleurs détachés, tout ça, ça va poser des problèmes. Et pour évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, le simple week-end, il faudra s'habituer à aller au passeport. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne et donc il faut faire comme si c'était un pays étranger.
Impact sur l'emploi. Il y a un élément qu'on comprend un peu moins bien, Bernard Spitz, c'est la chute de la livre sterling. Qu'est-ce que ça implique pour nous les Français?
C'est une évaluation par les marchés de la fragilisation du coût économique pour l'économie britannique, et c'est ça le dilemme de Boris Johnson aujourd'hui. Tout le monde sait, et lui le premier, que pour le Royaume-Uni, qui fait la moitié de son commerce avec l'Union européenne, ça aura des conséquences économiques en termes de récession et en termes de besoins d'adaptation. Donc l'un des sujets de l'accord. Les Anglais veulent jouer essayer de faire cavalier seul et d'avoir des règles du jeu qui seraient déloyales vis-à-vis des Européens. C'est ça que les Européens ne veulent pas. Vous savez, ils disent on va être le Singapour de l'Europe. Bon, donc il faut des règles à peu près équilibrées. Et donc c'est bien le dilemme de Boris Johnson. Comment faire pour arriver à la fois à compenser la perte que représente le Brexit, la perte économique, sans avoir à en supporter le coût politique? Et donc c'est ça qui vient dans la tête au moment où nous parlons. Et qui va devoir l'amener à trancher dans les 24 heures qui viennent.
Eh bien, on suit de près ces 24 heures qui viennent. Merci beaucoup, Bernard Spitz. 30 000 entreprises françaises qui connaîtront un big bang dans cet accord de no deal s'il intervient. C'est ce que vous nous dites. Vous êtes le président du pôle international du MEDEF. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1.